Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des documents sur la chirurgie du rachis. On a une sorte de guide détaillé là sur les options, les approches chirurgicales pour la colonne vertébrale.
Exactement. L'idée, c'est de démystifier un peu tout ça, de clarifier les choix possibles. On va regarder ensemble les grands types d'interventions. Quand on libère juste un nerf, quand on soude des vertèbres, ce qu'on appelle la fusion, ou alors quand on essaye de préserver le mouvement.
D'accord.
Et puis aussi, comment les chirurgiens y accèdent, les fameuses voies d'abord, et quels implants ils peuvent utiliser, pour le cou comme pour le bas du dos.
Les sources, justement, insistent sur trois choix fondamentaux. Le type d'opération, la voie d'abord, c'est-à-dire par où le chirurgien passe, et puis le matériel utilisé, l'implant. Commençons peut-être par les opérations elles-mêmes.
Alors oui, il y a d'abord ce qu'on appelle la libération simple. Là, on décomprime les nerfs, c'est tout. On ne met pas d'implant, on touche le moins possible à la structure en fait.
D'accord, le minimum vital en quelque sorte.
C'est un peu ça. Ensuite, il y a la fusion. Alors là, on bloque volontairement un segment de la colonne. C'est définitif.
On soude, quoi.
Voilà, on soude. Souvent avec des vis, des tiges ou des sortes de cages qu'on remplit de greffe osseuse. Ça stabilise très bien, mais...
Il y a un mais.
Ben oui, ça peut reporter des contraintes sur les étages juste au-dessus ou en dessous. C'est logique. Si un segment ne bouge plus, les autres compensent.
Et c'est là qu'intervient la troisième option, j'imagine, la préservation du mouvement.
Précisément, la préservation du mouvement ou motion, comme disent les documents. L'idée, c'est d'utiliser un implant dynamique, comme une prothèse de disque, par exemple.
Exactement, comme une prothèse de disque ou d'autres systèmes. Le but, c'est de traiter le problème tout en gardant une certaine mobilité pour se rapprocher de la fonction naturelle de la colonne.
Et le choix entre ces trois libérations, fusion, motion, ça dépend de quoi?
Ah ben, ça dépend complètement du problème du patient. Une simple hernie discale bien localisée, ça ne va pas demander la même chose qu'une instabilité majeure ou une arthrose très avancée. C'est vraiment du cas par cas.
Est-ce que l'approche change beaucoup entre le cou, le rachis cervical, et le bas du dos, le lombaire?
Oui, c'est assez différent. Pour le rachis cervical, donc le cou, la voie la plus fréquente, c'est par l'avant, la voie antérieure.
Par la gorge, en quelque sorte. T'as fait ça, par le côté du cou. C'est souvent par là qu'on met des prothèses discales pour préserver le mouvement, justement. Ou qu'on fait une fusion si c'est nécessaire. Passer par derrière, la voie postérieure, c'est beaucoup plus rare au niveau cervical.
D'accord. Et pour le bas du dos, le rachis lombaire?
Ah, pour le lombaire, c'est plus varié. On peut faire les trois types d'opérations dont on a parlé, libération, fusion ou motion. Et surtout, les chirurgiens ont plusieurs chemins possibles pour y arriver.
C'est-à-dire?
Ils peuvent passer par le dos, c'est la voie postérieure, la plus classique peut-être, mais aussi par le ventre, la voie antérieure, ou même par le côté, la voie latérale.
Ah oui, carrément par le côté.
Oui. Le choix dépend de l'étage qu'il faut attendre, du type d'opération qu'on veut faire, et puis aussi de l'habitude et de l'expertise du chirurgien, bien sûr.
Et pour les implants lombaires, surtout ceux qui essayent de préserver le mouvement, est-ce qu'il y a des exemples concrets dans les sources médicales?
Oui, plusieurs sont cités. Bon, déjà pour la fusion, on parle de cages. Ce sont des sortes de cales, si tu veux, qu'on met entre les vertèbres.
En quel matériau?
Souvent en PIC, c'est un plastique très résistant ou en titane. Et on les remplit avec de l'os, de la graisse.
D'accord. Et pour la motion?
Alors là, pour la motion, on trouve par exemple l'intraspine. C'est une sorte de cale souple qu'on met entre les pointes osseuses, à l'arrière des vertèbres, les apophyses épineuses. Il y a aussi le bedine, ça ressemble à des vis reliées par une tige un peu flexible. On cite aussi la prothèse discale LPESP qui, là, remplace carrément le disque abîmé. Ou encore le système TOPS qui, lui, va remplacer les petites articulations à l'arrière de la vertèbre.
Waouh, ça fait beaucoup de technologies différentes.
Oui, chacune a une philosophie un peu différente pour essayer de restaurer une dynamique qui se rapproche le plus possible de la normale.
C'est intéressant. Les documents parlent aussi de l'invasivité de l'approche. Endoscopie, minimalement invasive, MIS, open. Ça correspond à quoi?
C'est ça. Alors, l'endoscopie, c'est la chirurgie par caméra. On passe par de tout petits trous, un ou deux. La récupération est souvent très rapide, mais c'est réservé à des indications bien précises, comme certaines hernies discales.
Et le MIS?
Le MIS, pour minimalement invasive surgery, on utilise un petit tube, un écarteur spécial, pour passer entre les muscles sans trop les abîmer. Ça limite les dégâts par rapport à une grande ouverture.
Et l'open?
L'open, c'est l'ouverture classique. Ça donne la meilleure vue d'ensemble au chirurgien. C'est indispensable pour les cas complexes, les grosses déformations, mais c'est plus lourd pour le patient, forcément. Plus de douleurs post-op, récupération plus longue.
Et ces approches MIS, Open, elle se combine avec différentes techniques de fusion. J'ai vu des acronymes comme ALIF, PLIF, TALIF.
Exactement. Ces acronymes, en fait, ils désignent surtout la voie d'abord utilisée pour faire une fusion lombaire.
Ah d'accord. Et ALIF ?
Et ALIF, c'est intérieur lumbar interbody fusion, donc fusion par l'avant, par le ventre. PLIF ou TALIF, c'est par l'arrière, postérieur ou transforaminal. Et XLIF ou LLIF, c'est par le côté, latéral.
Je vois.
Et certaines de ces techniques, comme le TLIF ou le XLIF, peuvent se faire en MIS, voire même en percutané, c'est-à-dire à travers la peau avec des petites incisions.
C'est moins invasif pour les muscles, j'imagine.
Oui, c'est le gros avantage. Moins de douleur, récupération plus vite. Par contre, ça demande une très grande maîtrise technique de la part du chirurgien et ça expose souvent davantage au rayon X pendant l'opération pour se guider.
Donc un bénéfice immédiat contre un risque différent et une courbe d'apprentissage importante pour le chirurgien.
C'est un bon résumé du compromis, oui. Il n'y a pas une technique qui soit universellement supérieure à l'autre. C'est vraiment une balance à trouver pour chaque cas.
Au-delà de ces aspects très techniques, les sources abordent aussi le parcours du patient. Il y a notamment un programme spécifique qui est mentionné, appelé Franchir. Ça vous dit quelque chose ?
Oui, c'est mentionné. C'est un parcours qui semble spécifiquement destiné aux patients canadiens qui viennent se faire opérer en France via une structure appelée SOS Tourisme Médical.
Et comment ça fonctionne d'après les docs ?
Ça a l'air assez bien rodé, hein ? Il y a une évaluation initiale à Montréal, puis une planification avec un chirurgien français partenaire. Ensuite, le patient vient en France pour une dizaine de jours, le temps de l'intervention et des premiers jours post-opératoires. Et enfin, le suivi est assuré de retour au Canada.
D'accord. Et des centres français spécifiques sont mis en avant dans ces documents ?
Effectivement. Le CHU Pèlerinat à Bordeaux est cité pour sa polyvalence, on dirait. La clinique du Pré au Mans est mentionnée comme leader sur la prothèse discale LPESP dont on parlait.
Ah oui ?
La clinique Aurélience à Orléans, elle, serait experte pour l'implant intraspine. Et puis d'autres centres à Toulouse, Périgueux, Poitiers, sont aussi nommés pour des techniques spécifiques, comme le système TOPS ou l'endoscopie.
Donc ça montre bien qu'il y a une certaine spécialisation des centres, même en France.
Oui, tout à fait. Selon la technique ou l'implant visé, le choix du centre peut être important.
Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, on voit une chirurgie du rachis qui offre un éventail de solutions de plus en plus personnalisées, sur mesure.
Oui.
Avec toujours ce dilemme ou cet équilibre à trouver entre stabiliser la fusion et préserver la fonction mobile, la motion.
Absolument.
Et puis une tendance nette vers des approches moins invasives, comme le MIS ou l'endoscopie, quand c'est possible et pertinent.
C'est exactement ça. Le choix final, quel type d'opération, par où passer, quel implant utiliser, avec quelle technique précise, est vraiment complexe. C'est le résultat d'une discussion approfondie entre le patient et son chirurgien. Il faut peser la pathologie exacte, l'anatomie du patient, ses attentes, ses objectifs et bien sûr l'expertise disponible. C'est une décision très personnalisée.
Et pour finir, peut-être une petite réflexion qui m'est venue en lisant la mention dans les sources des concepts de zone neutre et zone élastique d'une colonne vertébrale saine. C'est la biomécanique naturelle, ça. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure ces chirurgies qu'elles visent à figer avec la fusion ou à mobiliser avec la motion parviennent-elles réellement à imiter ou à restaurer cet équilibre biomécanique très subtil, cette dynamique naturelle qu'a une colonne vertébrale en bonne santé ? C'est sans doute une question qui reste un peu ouverte, non ?